MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance d'apaiser les tensions familiales. On va rester focalisé sur, comme on l'appelle, la famille nucléaire, papa, maman, enfant, parce que si on élargit, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Mais on va rester focalisé simplement sur ça. Il y a déjà pas mal de matière et pas mal de choses à gérer dans ce domaine-là. Et pour ce domaine relationnel, vous l'aurez compris si vous avez suivi l'émission d'hier, Frank n'est pas avec nous, mais j'ai Nadine et Aurélie. Salut les filles.
Hello Evelyne, hello Aurélie.
Vous rappelait que les thèmes relationnels ne l'intéressent pas.
Mon cousin, c'est mon frère. Ma cousine, c'est...
C'est vrai. Alors là, tu m'embrouilles.
Ma tante, c'est ma mère.
Ma tante, c'est ma mère. On reste comme ça. Ah non, mais parce qu'on n'en finit plus, sinon. Ouais, si on inclut tous les membres de la famille, ça n'ira plus. Ça va bien, Nadine?
Ça va et toi?
Ça va très bien. Aujourd'hui, tu fais une rubrique famille. Tu vas nous parler de la relation mère-fille. C'est une première dans Bonjour chez vous.
Oui, vraiment, merci pour ce thème, Yveline. Parce que quand j'y pensais hier encore, quand je préparais encore ma rubrique, je me suis dit, il y a tellement à dire. Ouais. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de points. On va parler de la relation mère-fille.
On va te laisser beaucoup, beaucoup de temps.
Parce que c'est une relation qui est très, très importante dans la vie d'une femme. Et des fois aussi, malheureusement, on a grandi des fois avec des relations tendues avec notre maman. Et ça peut avoir des répercussions. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure.
C'est super. Un thème très, très intéressant. Donc, je ne le dirai jamais assez. Si vous n'avez pas encore d'enfants, ne zappez pas. Vous pouvez rester sur cette émission parce que ça va être très, très utile. Et si vos enfants sont grands, ne vous en faites pas. On va parler de la relation aussi avec des enfants adultes parce que là aussi, il peut y avoir des tensions et c'est même parfois là qu'il y en a le plus. Donc, il y a de la matière, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Alors, on commence avec Aurélie dans la pensée du jour.
Alors, qui dit famille dit tension probable. Je peux le dire parce que moi-même, je viens d'une famille où on est 7 enfants.
Wow.
Et c'est une très, 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 très bonne famille. Mais ça n'empêche pas certaines petites chicanes, comme on dit ici au Québec, parfois. Vous voyez, donc, et c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, mm-hmm. pas du tout. C'est juste ce que le vivre ensemble. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner parfois certaines petites tensions qu'il faut, bien sûr, qu'il faut déloger en fait pour que ça ne reste pas et que ça ne s'installe pas dans la famille. Alors on va voir aujourd'hui quelques raisons des tensions familiales et la liste n'est pas exhaustive. Peut-être dans votre famille, il y a d'autres raisons encore que vous allez pouvoir nous partager en commentaire alors que vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. Alors l'une des raisons qu'on peut mettre en évidence, c'est quoi? C'est les blessures non réglées. Un mot mal pris, une injustice, une comparaison, du favoritisme et ça donne des blessures à l'intérieur du cœur. Et au lieu de pardonner ou d'en parler, on garde tout pour soi et les rancunes vont s'accumuler et sans qu'on ne se rende compte, les relations peuvent se refroidir. Donc on doit vraiment faire attention aux choses qu'on garde dans nos cœurs. Si jamais vous vous êtes senti peut-être comparé à un frère, une sœur, un cousin, je sais pas, si vous êtes senti comparé, ben il faut apprendre à verbaliser, à dire ces choses-là pour que ça ne crée pas justement ce refroidissement. Une autre chose aussi, c'est le manque de communication ou encore des attentes cachées. Au lieu de dire clairement ce qu'on ressent, mais on attend que la personne en face devine ce qu'il y a dans notre cœur et sans le savoir, ben on accumule des frustrations qui peuvent créer également des tensions. Dans Jacques 4 verset 1 à 2, la Bible dit: d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes jaloux, vous n'obtenez pas, vous disputez et vous faites la guerre. En fait, il y a des choses à l'intérieur de nous parfois qu'il faut tout simplement régler parce que ce sont ces choses à l'intérieur de nous qui vont amener parfois des luttes, des querelles, des tensions et parfois parce qu'on n'arrive pas à verbaliser ces choses-là, on se retrouve en friction avec des frères ou des sœurs. Une autre chose encore, c'est le refus de se remettre en question. Personne ne veut faire le premier pas vers l'autre. Tout le monde va avoir raison, c'est l'autre qui a toujours tort et c'est l'autre qui doit s'excuser. Et dans certaines familles, je pense beaucoup aux familles africaines, parfois les aînés n'envisagent même pas qu'ils peuvent demander pardon aux cadets. C'est comme, c'est impossible. Ça ne se fait pas dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'on est des enfants de Dieu. Et même un parent, vous pouvez demander pardon à votre enfant si vous l'avez offensé, parce qu'on est des enfants de Dieu. Et la Bible nous encourage à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Donc, prenons aussi ce pas. Remettons-nous en question. Dans un problème, on n'a pas toujours raison parce qu'on est un aîné. Bon, je suis cadette dans ma famille. Donc, vous l'aurez compris.
C'est clair.
On n'a pas toujours raison parce qu'on est un aîné. On peut aussi se remettre en question. Et puis une autre chose aussi, c'est le manque de grâce. Parfois, on oublie que chacun a ses faiblesses dans une famille et on peut traiter nos frères durement parce qu'on va dire, mais on a reçu la même éducation en fait. On est tous dans la même maison, donc on ne comprend pas pourquoi toi tu manifestes cette faiblesse-là alors que les autres ne le manifestent pas. Et parfois, on généralise comme ça, mais une fois de plus, on doit apprendre à se supporter les uns les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, mais on doit apprendre à s'aimer dans nos familles malgré nos imperfections. Mon dernier point, je le garde pour la discussion.
Oh, quel suspense! Merci Aurélie. C'est super important ce que tu viens de faire parce que tu viens d'identifier en fait les zones de conflit, les sources de conflit. Et je pense que c'est vraiment le point numéro un quand on veut solutionner, quand on veut apaiser les conflits familiaux. C'est de s'asseoir et puis de se dire, bon, il vient d'où le problème en fait? Ça vient d'où? Est-ce que, bah oui, peut-être j'ai pas accepté de reconnaître mes torts, comme tu le disais. Peut-être que bah cette parole qui a été dite il y a 5 ans, bah je l'ai toujours pas digérée, je suis encore blessée et les différents points que t'as partagés, mais de savoir s'arrêter à un moment donné et dire, ok, là on met tout à plat. Et on vient à la source. On arrête de vouloir juste couper les mauvaises herbes. Là, on va aller déraciner. On va enlever la source qui cause ces conflits parce qu'il y a toujours une source, en fait. On peut dire, ah non, mais dans ma famille, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Non, 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 c'est pas normal, en fait. C'est normal qu'il y ait des petites tensions parfois, mais c'est pas normal que ce soit la continuité de conflits qui s'enchaînent les uns derrière les autres et que tous les repas de famille finissent en dispute, en les voix qui haussent et puis des propos qui sont dits, qui sont blessants, c'est pas normal en fait. Et si c'est votre normalité, bah aujourd'hui vous apprenez peut-être non, ce n'est pas normal et ça peut être différent. Et vous avez un rôle à jouer pour que ce soit différent.
Absolument. Et la famille n'est pas parfaite, mais comme Aurélie l'a dit, c'est une sens à penser, c'est qu'on doit s'aimer. Oui. Et c'est un endroit vraiment où est-ce qu'on doit manifester de l'amour, mais la famille n'est pas parfaite. Et ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu nous montre différentes familles. Ça n'a pas juste montré des héros de la foi, mais nous aussi montrer le quotidien des familles en commençant par Abraham. Et on a vu, ben voilà, Abraham, que ce soit la famille de Jacob, que ce soit la famille de David, ben plein de familles, en fait, imparfaites qui ont des problèmes aussi familiaux. Mais je voulais parler, Aurélie parlait qu'elle est la cadette. Moi, je suis l'aînée de ma famille. Mais en fait, je veux dire, c'est que autant chez les cadets, il y a des attentes, mais des fois aussi les aînés aussi ont trop d'attentes. Il y a trop de pression qui est mise sur eux. Eux, ils doivent être parfaits. Eux, ils doivent tout bien faire. Et c'est comme si les parents ont tout déversé sur l'aîné. Et l'aîné devient comme le mini-adulte, le troisième parent de la maison. Oui. Et des fois, il n'est même pas permis de faire des erreurs ou d'être aussi un enfant. Et donc, ça amène aussi des blessures, des frustrations. Des fois, même l'aîné va maintenant se comporter en parent sur les autres. Et les autres vont dire, mais t'es pas mon père, t'es pas ma mère, pourquoi tu te comportes ainsi? Et donc, des fois aussi, tu parlais de la source, mais juste de reconnaître, c'est quoi le système dans lequel on est? Le système familial qu'on a. Est-ce que on est dans un système familial où c'est l'aîné qui porte tout? Un système familial où le cadet est permis de tout faire parce que les parents sont rendus fatigués et puis le laisse un peu aller, voilà.
Comme cadet aussi, fais attention.
Est-ce que c'est un système familial où celui du milieu, il est perdu dans la masse? Tu vois un peu? Et donc, des fois, notre système déjà familial fait en sorte que c'est un système qui est déjà prompt à avoir certains types de caractéristiques, de faiblesses, de difficultés, en fait, juste parce que la manière dont le système est fait. Donc, c'est pas que les gens sont mal intentionnés, mais ils sont déjà comme si préalablement mis dans des positions.
Exact.
Qui font que, par défaut, ils vont faire certaines choses. Donc, déjà, c'est aussi
Le système peut être culturel, hein, tu l'as mentionné, mais c'est vrai que selon les cultures, le système familial ne va pas forcément être le même.
Ouais, et c'est pour ça que pour apaiser aussi les tensions, mais il faut pouvoir parler de ces choses-là.
Eh oui.
Tu vois, parfois, on est tellement braqué sur le fait que je suis ta grande sœur, tu es ma petite sœur, ou bien la petite aussi est braquée sur le fait que, ben, on me doit tout dans cette maison, tu vois, et qu'on ne réalise pas que, ben, peut-être qu'il faut analyser notre système familial à la lumière de la parole de Dieu. Et une chose aussi, c'est que la famille quand même est attaquée. Hein. La famille, c'est un socle d'unité que le Seigneur a créé, dont la famille est attaquée vraiment par l'ennemi. Oui. Et c'est de se dire que mais moi, je veux pas que ma famille subisse les attaques de l'ennemi. Mmh. Et c'est de s'aimer assez pour accepter nos différences.
Oui.
Je le dis parce que parfois, on grandit, il y a plusieurs étapes. Moi, je me rappelle quand on était enfant, tout était parfait, tu vois. La vie était rose. Je ne me suis pas posé un million de questions, mais je ne suis pas sûre que la première, par exemple, va dire la même chose, je ne sais pas.
Ouais,
mais dans mon monde, à moi, tout était parfait, tu vois. Mmh. Et puis après, on a grandi, mais là, tu commences aussi à avoir tes positions. Mmh. C'est plus juste l'enfant qu'on envoie, tu vois. T'es l'enfant aussi qui veut dire non, etc. Et puis là, il commence à avoir des petites frictions, des choses comme ça. Mais c'est parfois aussi juste de s'arrêter et de se dire que, d'accepter que, en fait, ma sœur, mon frère peut faire quelque chose que je suis pas du tout d'accord. Mais ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour mon frère, que j'ai pour ma sœur. Il y a des choses que, oui, je n'aurais jamais fait comme ça, mais ça n'enlève en rien. Parce que je pense que la famille, la Bible nous parle de l'accord. Que si deux d'entre vous s'accordent ensemble, le premier, pour moi, bassin d'accord, ben, ça commence dans la famille.
Oui.
Si deux s'accordent. La Bible parle même du mari et de la femme en disant au mari de considérer sa femme comme un sexe plus faible, afin que la prière ne soit pas entravée.
Oui.
Tu vois, c'est comme dans la famille, il y a un bassin d'accord qui est disponible pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et le diable a intérêt à briser ça pour que les familles, justement, ne s'accordent pas et ne voient pas la grâce et la puissance de Dieu. Donc, c'est important, malgré nos différences.
Il faut en avoir conscience.
C'est ça.
Exactement. Et un point qui pose souvent problème et qui peut être donc une bonne piste de solution, c'est le fait de mieux communiquer. Éphésiens 6:4, qui est notre verset du jour, nous dit « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Parfois, en tant que parents, on peut irriter nos enfants. Nos enfants peuvent nous irriter, mais on réalise pas que nous aussi, notre attitude, la façon dont on communique peut irriter les autres, peut irriter notre entourage. Et vraiment, développons une communication qui est plus saine dans nos foyers. Apprenons à nous pardonner les uns les autres pour que les blessures puissent être guéries. Et finalement, prenons le temps de s'asseoir ensemble et de chercher des solutions. On a identifié la source. On a appris à se parler. On s'est pardonné. Maintenant, on cherche des solutions ensemble. On met en place cette fois-ci un système qui va fonctionner, une façon de faire qui va fonctionner. On va identifier clairement quels sont les besoins de cette famille pour que ça fonctionne. Et je suis convaincue qu'il y aura des améliorations. Et on va voir maintenant la relation mère-fille de manière plus spécifique. Je le disais, on l'a jamais fait dans Bonjour chez vous aussi précisément que ça. Mais ça vaut la peine d'en parler parce qu'on va voir que c'est pas toujours si simple. Alors, on va écouter Nadine dans la rubrique famille.
Alors, la relation mère-fille, c'est un sujet que je trouve très intéressant. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai un chapitre là-dessus. Parce que je trouve que c'est important.
Rappelle-nous le titre de ton livre.
Je suis comme elle. Je suis comme elle, par moi. Pour le retrouver en ligne. Mm-hmm. Et vraiment, je parle de la relation mère-fille parce qu'en fait, je me suis inspirée de Dina et Léa, qui sont deux femmes qui ont deux vies différentes, mais qui ont eu quand même il y a des rapprochements dans leur histoire. Il y en a une, Léa, qui était mariée, voilà, à Jacob, alors que Jacob ne voulait pas l'épouser. Et il l'a mariée quand même. Et donc, elle est malheureuse dans son mariage. Et t'as une Dina qui est toute seule au milieu de 11 frères, qui est protégée. Ses frères l'aiment. Mais malgré tout, alors qu'elle est victime, voilà, d'un viol, elle va rester chez cette personne-là, parce que la Bible dit qu'il a su parler à son cœur. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que Dina a pu même accepter ça comme étant une réalité, de dire, mais il m'a fait mal et je vais quand même rester là. Et des fois, je me suis dit, ben, peut-être que dans les conversations de Dina à Léa, de Léa à Dina, qu'est-ce qu'elles se sont dit? Parce que des fois, en tant que femme, on hérite beaucoup aussi notre perception de la vie à partir de notre mère. Mmh. Sinon, notre mère nous a éduqués à partir de ses blessures, elle va nous transmettre ses peurs et ses blessures. Si elle nous a éduqués à partir de ses espoirs, ben, elle va nous transmettre quelque chose de différent. Et je me disais, ben, Léa, Dina, quand elle voyait sa maman et sa tante Rachel se disputer, est-ce qu'elle se disait, ben voilà, le mariage c'est comme ça, et peut-être que Léa lui a dit, ben écoute, les hommes sont tous pareils, tant pis, ça va être comme ça, faut que tu supportes, c'est comme ça dans notre famille, le mariage est difficile. Ou bien est-ce que Léa plutôt dit à sa fille, écoute, moi ça n'a pas été facile pour moi, mais toi ça va être différent. Et donc ça m'a vraiment amené à cette réflexion-là. Et du coup, quand tu as proposé ce thème, je me suis dit, c'est super intéressant. Et donc on va juste regarder ensemble, comme tu l'as dit, si vous avez une fille, si votre fille est encore petite, là c'est sûr que je vais beaucoup plus parler des relations à l'âge adulte, mais si votre enfant est encore une petite fille dans la maison, je vous en supplie, protégez-la, protégez cette relation, bâtissez cette relation, apprivoisez votre fille, voilà. Ne restez pas juste sur la surface de « je t'envoie faire ceci, est-ce que tu as rangé ta chambre, est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Mais bâtissez une relation avec votre fille parce que ça va vous suivre plus tard. Ouais. Des fois, on a l'impression que les enfants vont être des enfants tous les jours, mais en fait, ils grandissent tous les jours. Et on s'en rend pas compte, on se réveille un matin et boum, elle a 20 ans, elle a 22 ans, elle a 25 ans et le temps passe tellement vite. Mais ce que vous aurez posé comme fondement dans l'enfance, ben c'est ça en fait qui va vous aider dans l'âge adulte. Nous tous ici, nous avons une maman, ben on regarde notre relation avec notre mère et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Ça a commencé quand on était petit et si on avait déjà bâti quelque chose à l'âge quand on était enfant, ben ça nous suit. Si on avait des blessures quand on était enfant, ben ça aussi ça nous suit. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible de corriger le tir. Alors j'aimerais vous inviter, on va lire le verset du jour, mais un peu plus haut. Éphésiens 6, les versets 2 à 4. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, on va dire aujourd'hui mère, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donc pas critiquez-les, pas donnez-les une éducation qui vient de la culture, mais qui vient du Seigneur. Et donc vraiment, c'est important, comme je le dis encore, vous avez une petite fille chez vous, résister à l'envie de tout le temps la critiquer, de mettre la barre trop haute, de tout le temps la comparer, etc. Des fois, on a l'impression que c'est ça qu'on doit faire pour motiver l'enfant. Mais en fait, on est en train de créer des blessures qui vont suivre plus tard. Donc, la relation toxique parent-enfant-adulte, c'est un sujet qui est tabou. Surtout au niveau des femmes. Je pense que on se dit, ben, une femme, c'est aimant et tout ça. Donc, c'est difficile de dire, ben, j'ai une relation difficile avec ma maman ou je m'entends pas avec ma maman. Mais je crois que beaucoup de personnes, malheureusement, pour avoir parlé avec des gens, beaucoup de personnes ont grandi dans une atmosphère instable comme ça avec leur mère, mais et à l'âge adulte, ça rend la relation compliquée. Alors, je vais juste aller rapidement sur différents exemples de relations mère-fille instables. Il peut en avoir beaucoup plus, mais j'en ai recensé quelques-unes. Peut-être vous allez vous reconnaître dans une de ces relations-là. La première, c'est la mère critique. La mère critique, rien n'est jamais assez bien. Elle compare tout le temps avec les autres. Elle a tout le temps des commentaires négatifs sur nos choix, sur nos résultats scolaires, etc. Et donc, en tant que fille, on grandit en cherchant constamment l'approbation, parce qu'on a tout le temps été critiqué. On a la mère absente émotionnellement. C'est une mère qui va être là, présente physiquement, mais elle est distante. Elle ne s'intéresse pas à la vie de sa fille. Il n'y a pas de conversation profonde, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas vraiment d'échange. Et donc, la fille grandit comme ça, en se sentant invisible, en se sentant pas importante. On a la mère compétitive. Ça, c'est la maman qui va un peu vivre à travers la vie de sa fille, qui va même jalouser les accomplissements de sa fille, qui va même se sentir menacée par la beauté de sa fille. Il y a des mamans qui se disent, ben j'étais belle, et puis c'est comme elle dit à sa fille, tu as pris ma beauté. Depuis que j'ai accouché, mon corps a changé. Et vraiment, elle va avoir un sentiment comme ça envers sa fille, carrément, même d'amertume, comme si elle était fâchée contre sa fille et tout ça. Elle va minimiser le succès de sa fille, et va même rentrer dans une relation de rivalité avec sa fille plutôt que de soutien. On a la mère contrôlante. C'est celle qui veut tout décider, les vêtements, les amis, les études, la carrière, même les relations. Elle ne limite pas, il n'y a pas de limite, elle ne respecte pas les limites. Elle utilise la culpabilité comme un outil de manipulation. Et la fille n'apprend jamais à prendre ses propres décisions, en fait. Et des fois, c'est une maman qui, d'extérieur, elle a l'air aimante. Mais en fait, son amour est étouffant. Et c'est ça, la maman contrôlante. Il y a la mère qui fait de sa fille sa confidente. Donc, c'est la maman qui partage ses problèmes d'adulte à sa fille qui est enfant. Elle va inverser les rôles. Donc, la fille devient maintenant le parent émotionnel. Il y aura comme une surcharge, en fait, sur la fille qui n'est pas bon. Et donc, la fille, en fait, elle grandit, mais elle a toujours été adulte. Elle a perdu son enfance. Tu vois, à 12 ans, à 13 ans, elle était déjà exposée à des choses d'adulte, en fait. On a la maman négligente. C'est celle qui ne va pas pourvoir aux besoins de l'enfant physique, émotionnel, etc. Et l'enfant grandit en se débrouillant tout seul. Elle n'a pas vraiment de structure, etc. La maman qui favorise les autres enfants, ça c'est la comparaison. Des fois aussi même dans des familles où il y a des garçons et ben il y a un garçon mais il y a plusieurs filles. C'est le garçon qui est l'enfant unique.
Le héros.
Et les autres sont des accompagnateurs. C'est très 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 nocif, c'est très toxique. Et donc il y a un traitement qui est inégal et l'enfant va grandir avec un sentiment de rejet, de ne pas être assez bien. Il y a la maman qui est imprévisible, donc celle qui a des sautes d'humeur et tout ça, on marche sur des œufs quand on est avec elle. La maman qui transmet ses traumatismes, j'ai parlé un petit peu, j'ai fait l'exemple de Léa, je dis pas que la Bible ne nous le dit pas, mais je me suis juste projetée à réfléchir à ça. Et donc des fois on projette nos propres blessures sur nos enfants et la maman qui ne protège pas. Ça c'est malheureusement, ça existe. Des mamans qui ont fermé les yeux alors qu'elles étaient au courant des abus qui avaient lieu même dans la maison, qui n'ont rien dit. L'enfant a verbalisé quelque chose. La maman n'a pas protégé son enfant. La maman a étouffé les choses. Et donc tout ça, ça vient vraiment à l'âge adulte miner les relations. Et des fois, tu peux pas dire pourquoi toi et ta mère vous entendez pas. Mais en fait, c'est parce qu'elle est dans une de ces catégories-là. Mais par la grâce de Dieu, alors que vous êtes au Seigneur, je crois que le Seigneur peut changer les choses. Il peut déjà guérir votre cœur. Et alors qu'il guérit votre cœur, vous donne aussi des stratégies de comment apaiser ces relations-là, qui pourront peut-être pas être des relations parfaites, mais en tout cas, des relations qui vont l'honorer. Alors, comment briser le cycle de la douleur? Je pense qu'il faut déjà commencer en tant que parent de ne pas parler à partir de nos blessures, mais de parler à partir de nos espoirs, de ne pas nourrir nos enfants de nos blessures. Des fois, c'est de façon... Des fois, on veut les aider, mais en fait, on projette sur eux notre réalité. Ça, c'était notre vie, mais c'est pas la leur. Notre enfant n'est pas une extension de nous-mêmes. Elle est un être à part entière. Dieu nous l'a confié, mais c'est quelqu'un d'autre. Et des fois, en tant que maman, on veut tellement se déverser dans sa fille qu'on ne sait plus faire la distinction entre nous et elle, en fait. Et ça, c'est important. Si vous êtes une maman qui connaissait le Seigneur, ben, laissez Dieu vous guérir pour dire, OK, Seigneur, donne-moi, d'éduquer ton enfant, parce que c'est l'enfant de Dieu, finalement, de la bonne manière et de ne pas lui transmettre mes peurs. Alors vraiment, en tant que parent, en tant que maman, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que, en tant que maman, je me suis repartie d'un point. Voilà. Qu'est-ce que vous transmettez? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant? Est-ce que j'ai préservé son regard ou est-ce que j'ai pollué sa vision sur les choses? Je disais tout à l'heure, quand on dit les hommes sont tous les mêmes, ça, c'est votre regard. C'est pas la vérité. Mais peut-être parce que vous avez vu ça autour de vous, vous avez transmis cette information-là à votre fille. Donc, de façon inconsciente à l'intérieur d'elle-même, elle a cette cassette qui joue dans ses pensées. Donc, c'est important de comprendre ça. En tant que maman, est-ce que vous êtes conscient du poids de vos paroles? Est-ce que vous savez que vos paroles peuvent briser ou bâtir? Et des fois, en tant que parent, les plus critiques, c'est les mamans. Et elle va critiquer, des fois, pour bien faire. Tu vois, elle va venir chez toi, tu viens de te marier. Ah, tu devrais mettre ça là. Ah, tu devrais mettre ça. Ah, tu devrais... Et donc, elle te critique, en fait, mais elle pense bien faire. Mmh. Elle rentre dans ton appartement, elle refait tout. Elle pense bien faire, mais en fait, ça mène plus de critiques que d'encouragement. Donc, je crois qu'on peut donner des conseils, mais de la bonne manière, et des conseils, évidemment, qui sont demandés.
Effectivement, un bon point.
Et comme je le disais, vraiment de comprendre que notre rôle, notre fille n'est pas une extension de nous-mêmes. Notre opinion est importante, mais notre opinion n'est pas plus importante que la relation qu'on a avec elle. Je le dis pourquoi? Parce qu'à l'âge adulte, il y a des parents avec leur fille, ils ne se parlent plus depuis un an parce qu'ils se sont pris la tête sur quelque chose. Mais est-ce que ça vaut la peine par rapport à la relation? Donc ma fille, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Je suis ta mère, je dois te dire la vérité. Si quelqu'un sur cette terre doit te dire la vérité, c'est moi. Mais je t'aime assez que je vais t'accompagner quand même. Et c'est dur des fois en tant que parent d'accompagner notre enfant quand on n'est pas d'accord. Mais de se dire ma relation avec elle est plus importante que mon opinion. Et de dire, ben, je veux pas me retrouver, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je boude mon propre enfant, c'est pas normal. Et donc, c'est important pour vous, si votre relation est tendue, on parle aujourd'hui d'apaiser les relations, c'est de maintenir un dialogue, d'exprimer votre amour, de dire, OK, mon opinion, c'est ça, mais je t'aime quand même. Et si vous êtes mal exprimé, peut-être que voilà, vous avez trop voulu lui dire la vérité et vous l'avez heurté, comme Aurélie nous l'a dit dans sa pensée. Même si vous êtes le parent, ben, vous devez aussi demander pardon. Et de dire, écoute, je t'ai mal parlé, j'ai pas respecté l'adulte que tu es, voilà, je te demande pardon, mais voilà, et vous expliquez, et vous rebâtissez les relations. Au début de la rubrique, j'ai lu le verset d'Éphésiens, qui parle des parents qui devons honorer nos parents, parce que c'est une promesse, c'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. Et donc aussi, j'ai parlé beaucoup aux mamans, mais aussi à vous, filles, adultes, j'aimerais aussi vous parler de vous battre aussi pour maintenir une relation cordiale, une relation saine avec votre mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison biblique derrière. Il y a une promesse de longue vie qui est attachée lorsque nous honorons nos parents. Et aussi, pour une raison pratique. Parce que, on dit, chasse le naturel et revient au galop. Mmh. Si nous-mêmes, on n'a pas su rebâtir des relations avec notre maman, c'est fort probable aussi que les choses qu'on lui reprochait, qu'on les reproduise de façon même pas intentionnelle. Donc, c'est important de casser le cycle, en fait.
C'est vrai.
En disant, je rebâtis la relation, j'apprends pour que moi, je fasse différemment. Donc, vraiment, de façon concrète, pardonnez. Relâchez le pardon sur votre maman. J'ai nommé différents types de mamans. Si vous avez une maman qui ne vous a pas protégée, vous avez des conséquences sur votre vie qui sont des vraies conséquences. Ben, faut relâcher le pardon par rapport à ça. Décidez de pardonner votre mère. Décidez de développer de l'empathie. Quand je dis développer de l'empathie, c'est que des fois, en tant qu'enfant, on reste des fois enfant même quand on est adulte. Ça veut dire qu'on regarde toujours notre maman comme une maman. Mais quand on devient adulte, des fois, il faut la regarder comme une femme, en fait.
C'est vrai.
C'est une femme. Mm-hmm. Et moi, je me rappelle une fois, quand j'ai eu l'âge que ma mère a eu quand mon père est décédé, je me suis dit, oh, mais elle était jeune, en fait. Mm. Elle avait tout ça à gérer. Mais c'est fou. Mais à ce moment-là, je la voyais comme si elle était une maman, une vieille et tout.
Oui.
Mais en fait, c'était une jeune, ça. Tu vois. Et quand tu atteins cet âge-là, tu te dis, oh, mais en fait, et tu vois les choses en perspective. Et donc, c'est juste tout simplement de vous dire, L'empathie, c'est ça. C'est juste de dire, OK, elle a fait ses décisions basées sur les connaissances qu'elle avait, avec voilà les moyens qu'elle avait, la réalité qu'elle avait, essayer de voir même sa réalité, lui poser des questions. Mais c'était comment chez vous, là, quand vous allez comprendre comment était votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, là, ça vous permet de voir les choses, de changer de perspective et de la voir, voilà, comme une femme qui a fait le mieux qu'elle pouvait, qu'une femme qui avait aussi ses rêves, ses aspirations, un passé, etc. Et vraiment décider de la bénir. On a dit honorer vos parents. Et comment bénir? C'est des fois bénir juste par nos paroles, bénir dans nos pensées. Et des fois, même le parent n'est plus là. Il y a des personnes aujourd'hui, peut-être votre parent est déjà décédé. Mais même dans votre souvenir, là, vous forcez-vous à vous rappeler de quelque chose de bien. Elle m'avait amené prendre une glace. Elle m'avait laissé jouer avec elle. Elle avait fait quelque chose. Et ça, quand vous vous rappelez les bonnes choses, vous commencez à méditer ces bonnes choses-là. Et c'est une manière de bénir quelqu'un. Quand vous commencez à faire ces choses-là, vous parlez bien d'elle. Vous vous focalisez sur les bons souvenirs. Et vraiment, je reviens à dire que si vraiment vous avez une relation qui était marquée par l'abus, ne désespérez pas. Reposez-vous sur Dieu. Laissez le Seigneur vous travailler. Et une fois que vous avez, il vous a travaillé, que vous avez pu pardonner et que là maintenant vous avez un regard plus juste sur les choses, ben, engagez un dialogue. Aujourd'hui, peut-être que là, vous êtes là, vous dites, oui, moi, ma mère et moi, on se parle plus ou on se parle de façon superficielle. Chacun reste dans son rôle de l'enfant et de la maman. Ça va bien? Oui, ça va bien. OK, les enfants vont bien, tout va bien. Ça reste comme ça. Mais de peut-être, par la prière, le Seigneur va vous inspirer à déclencher une conversation. Et peut-être il y aura un moment où vous allez avoir une conversation profonde. Elle va vous raconter quelque chose de son passé. Et par là, une ouverture va se faire. Et là, vous allez revenir sur certaines situations et le pardon va pouvoir s'accorder et la guérison réelle va pouvoir prendre place. En tout cas, je veux vous encourager. Si vous êtes une fille, aujourd'hui, vous êtes adulte et vous regardez votre relation avec votre mère, vous dites que j'aurais aimé que ce soit différent. Mais il n'est pas trop tard. Le Seigneur est un Dieu de restauration. La Bible dit dans Jérémie 30, les versets 18 à 19, voici ce que dit l'Éternel. Je vais ramener de déportation les familles de Jacob. J'ai pitié de ses habitants. La ville sera reconstruite sur ses ruines et le palais retrouvera sa place. Des manifestations de reconnaissance et des cris de réjouissance se feront entendre de leur part. Je les rendrai nombreux, ils ne diminueront plus. Je les rendrai importants, ils ne seront plus méprisés.
Amen. Merci Nadine, quelle magnifique rubrique. Tu étais la femme de la situation. Non, c'était très très profond et oui, on est obligé de faire une introspection. Moi-même, j'ai une fille, donc forcément, je me suis beaucoup identifiée à tout ce que tu partages. Et je vous invite, si vous êtes une maman ou vous êtes une fille, bah, que ça puisse aussi produire quelque chose vraiment dans votre cœur. Il y a eu des grandes choses, des choses très profondes qui ont été partagées par Nadine. Ne les laissons pas juste en surface comme ça, en disant, peut-être certaines, vous avez pleuré vraiment fortement pendant cette rubrique, vous avez vécu quelque chose de fort. Eh bien, demandez au Seigneur, allez, fais sortir tout ce qui doit sortir, remets à la lumière tout ce qui doit être remis à la lumière. Je veux que ça change. Si vous êtes une maman, faites cette prière, Seigneur, viens au secours de mes manquements, de mes lacunes, apprends-moi à être une bonne maman, je veux que ça change. Dieu répond toujours à ce genre de prière qui est comme un cri du cœur pour faire ce qui est bien, ce qui est juste. Donc ne soyez pas découragés, mais soyez encouragés. Ce verset que Nadine a lu à la fin, c'est notre partage. Oui, le Seigneur peut rebâtir, même si c'est en ruine. Merci beaucoup les filles, très très belle émission. Et demain, on va parler du prix à payer pour accomplir de grandes choses. Tous ceux d'entre vous qui avaient des projets, des rêves, des visions, des idées, cette émission va vous plaire. Et Nadine, tu répondras à la question « Quelle est la part de Dieu et la part de l'homme dans une réussite ?» On va se partager la charge avec le Seigneur demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.